le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bon dimanche. Bienvenue à cette émission. En voici les principaux titres. Il faut que les FDLR se rendent et désarment totalement et sans condition. Position de la MONUSCO exprimée par son chef Martin Kobler, réaffirmée mercredi dernier par son adjoint en charge des opérations dans l'Est, le général Abdallah Wafi. Les détails dans Actualité de la semaine. Le PAM continue ses programmes au Nord Kivu mais suspend momentanément la distribution générale des vivres dans quelques sites. Il appelle ses partenaires à continuer de soutenir l'assistance alimentaire en RDC. Ce sera notre décryptage. Enfin, des réfugiés centrafricains continuent d'arriver en RDC, notamment en Équateur et dans la province orientale. La semaine dernière, on a compté 500 nouveaux arrivants à Guadolité. Céline Schmitt, administratrice principale régionale des relations extérieures au HCR RDC, vient d'une mission à Zongo. Elle sera notre invitée.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Les déclarations d'intention ne nous engagent pas, c'est la réponse de la MONUSCO au FDLR. Le général Abdallah Wafi l'a réaffirmé à partir de Goma au cours de la conférence de presse hebdomadaire, c'était le mercredi dernier. Pour la MONUSCO, tant que les rebelles hutu-rwandais n'auront pas déposé les armes et ne se seront pas rendus, ils subiront le même sort que tous les autres groupes armés, conformément à la résolution du Conseil de sécurité. C'est ce qu'avait souligné le général Abdallah Wafi. Ses propos sont sélectionnés par Honoré Missing.
La résolution 2098 nous demande d'appuyer les autorités congolaises pour neutraliser tous les groupes armés, y compris le FDLR. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de préparer des plans opérationnels pour nous engager contre le FDLR. Tant qu'ils n'auront pas désarmé, les déclarations d'intention ne nous engagent pas. Il faut que ce soit clairement entendu. Ceux qui savent où se trouvent les bases de FRDC, ils savent où se trouvent les bases de la MONUSCO, qui s'y rendent tout de suite. S'ils ne se rendent pas, nous allons les attaquer. C'est clair, c'est net, c'est un message officiel, solennel. S'ils ne désarment pas, nous ne nous contenterons pas de déclarations d'intention. Je vous prends à témoin, il y a de cela quelques jours, dans le territoire de Libero, des atrocités ont été commises. Et pendant ce temps, on veut amuser la galerie par des déclarations, par des conditionnalités. Non, notre position est claire. Nous allons les engager. Dès que les conditions seront créées, nous allons les engager. Pas de déclaration d'intention, pas de diversion. Où ils désarment, le message pour eux est valable, pour l'ADF, c'est valable. Voilà la position de la MONUSCO.
Au cours de la même conférence de presse, le général Wafi a fait le point de la mission qu'il a conduite la semaine dernière sur invitation des autorités militaires ougandaises. C'était pour évaluer la situation des éléments du M23 réfugiés dans ce pays après leur défaite militaire. Une fois encore, les propos du représentant spécial adjoint de Ban Ki-moon en RDC.
Et le ressort de cette visite que les autorités ougandaises souhaiteraient que une commission bilatérale République démocratique du Congo, autorité ougandaise, soit mise en place avec au besoin le soutien et l'appui de la MONUSCO pour que, un, les éléments qui sont là-bas, dont on nous a remis la liste exhaustive, soient identifiés formellement, screenés, et que les conditions de leur intégration à travers un processus de DDR qui puisse leur permettre de rejoindre leur pays et d'être éligibles au processus de réintégration, de réinsertion sociale. La liste nominative qui nous a été remise fait état de 1350 éléments des M23. Mais je constate que les autorités militaires ougandaises sont ouvertes et demandent la mise en place de cette commission pour que vous et nous puissions avoir des éléments fiables, crédibles, pour pouvoir nous prononcer.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme alimentaire mondial a annoncé la suspension de son aide alimentaire dans 34 sites de déplacés au Nord Kivu. Son chargé de communication précise que l'agence continue d'autres programmes d'assistance humanitaire dans 7 provinces et qu'elle n'a suspendu que le programme de distribution générale des vivres. Selon Claude Kalinga, la distribution des vivres devra désormais se faire sur base de la vulnérabilité des déplacés et non sur base du statut. Il s'entretient ici à partir de Goma avec Jean-Pierre Elali Coco, suivez.
Claude Kalinga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé des communications au PAM, Programme Alimentaire Mondial. Votre agence vient de suspendre son aide après des 34 sites des déplacés au Nord Kivu. Pourquoi cette décision au moment où les déplacés ont plus besoin d'aide du PAM?
Bon, le PAM n'a pas discontinué la distribution alimentaire dans les 34 sites de déplacés, puisque l'assistance alimentaire du PAM continue en faveur des enfants âgés de moins de 24 mois, des mères enceintes et allaitantes, malnutries dans les centres nutritionnels, les élèves du cycle primaire au moyen des rations humides dans les cantines scolaires, les personnes vivant avec le VIH-SIDA. Cependant, il y a une activité que nous appelons la distribution générale des vivres. Ce programme-là qui a été suspendu simplement parce que, au départ, nous donnions des vivres à tout sur la base du statut, c'est-à-dire que quiconque était déplacé devait recevoir des vivres. Mais étant donné que on s'est rendu compte par la suite qu'il y a des personnes qui ne devraient en principe pas recevoir de rations du PAM, on était donc amené à pouvoir lancer cette enquête qui va commencer la semaine prochaine pour déterminer réellement qui sont ceux qui devraient bénéficier des vivres du PAM. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une activité, un seul programme, pendant que les autres continuent normalement.
Voilà. Donc il y a d'autres programmes continuent et puis tout simplement la distribution générale qui est suspendue en attendant bien sûr l'enquête. C'est ce que vous voulez dire?
Exactement. Bon, cette enquête va commencer très très prochainement, je crois la semaine prochaine, début février, parce que les enquêteurs sont en formation au moment où je vous parle. Donc on va devoir aller très rapidement pour que cette enquête nous amène des résultats que nous attendons de plus ferme pour commencer le plus rapidement les distributions dans les sites et camps des déplacés au Nord Kivu.
Claude, mais certains observateurs trouvent là un moyen, une stratégie pour le PAM de bénéficier davantage de l'appui des donateurs et bailleurs de fonds. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, en fait, nous distribuons ce que nous recevons des non-bailleurs de fonds, des non-donateurs. Bien entendu, vous savez que les donateurs, à un moment donné, se sont également dit, comme le PAM, qu'on ne devait pas assister sur la base du statut, mais plutôt sur les critères de vulnérabilité. Donc, qui est vulnérable devait recevoir la ration du PAM. Donc, eux comme nous, nous émettons sur la même longueur d'onde. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, écoutez, nous donnons, n'est-ce pas, à ceux qui sont réellement vulnérables. On a vu, par exemple, des gens qui, du jour des distributions générales des vivres, des personnes qui quittaient la ville de Goma, qui allaient recevoir les vivres dans les sites et qui retournaient. En fait, ce sont des gens qui sont dans des familles d'accueil, qui ont développé des mécanismes de survie, qui ne sont pas autant vulnérables que ceux qui sont dans des sites des camps et déplacés, notamment des personnes de troisième âge qui ne peuvent rien faire. Donc, c'est pourquoi cette enquête tombe bien nommée pour que nous déterminions exactement qui devrait recevoir les rations du PAM.
Et quelle est la durée de cette enquête? Parce qu'on a peur que les vulnérables soient victimes de la durée.
Ils devront attendre parce qu'eux-mêmes aussi sont d'accord avec nous que cette enquête était bienvenue parce qu'ils nous ont dit de vive voix que réellement le nombre, par exemple, de déplacés dans certains camps avait complètement changé, avait diminué. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés qui ne sont nécessairement pas des déplacés, qui devaient mériter nos rations.
Claude, là on a compris, mais quelle en est la durée, l'enquête?
La durée de l'enquête, c'est environ un mois. Donc, dans un mois maximum, tout sera mis au point et on aura des résultats pour aussitôt relancer les programmes de distribution générale dans des sites et camps des déplacés.
Pouvons-nous avoir justement une idée sur le montant dont les PAM et RDC bénéficient chaque année pour ces interventions humanitaires en République démocratique du Congo exactement?
Bon, je peux te donner une indication. Au jour d'aujourd'hui, le PAM a besoin d'environ 83 millions de dollars six prochains mois. Donc, et au jour d'aujourd'hui, le PAM n'a pas 50% de ce dont il a besoin pour ses activités. Donc, on est en deçà de nos attentes. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel urgent aux bailleurs de fonds, à nos donateurs, pour qu'ils viennent au secours, n'est-ce pas, de ces milliers de déplacés, de millions de déplacés, à travers le PAM, à travers nos différents projets, activités et programmes, non seulement Nord Kivu, mais dans l'ensemble du pays.
Si je comprends bien, c'est un danger parce que le PAM ne recevait pas les dons de donateurs et il ne pourra pas satisfaire aux besoins des déplacés.
C'est cela. En fait, aujourd'hui, nous recevons de nos bailleurs, mais $1 000, nous allons faire notre programme, nos différents projets sur la base de ce que nous recevons. Donc on ne peut pas donner plus que ce que nous avons. Plus nous avons, selon nos plannings, et nous allons agir en conséquence. La raison pour laquelle nous attendons vraiment la réaction rapide de nos bailleurs de fonds pour que nous continuions nos programmes normalement.
À combien peut-on estimer le nombre de déplacés au nord Kivu actuellement et même au sud Kivu?
Bon, dans l'ensemble de ces deux provinces, nord et sud Kivu, nous sommes aujourd'hui dans le nombre est estimé à environ 1,6 million, donc 1,6 million. Et dans le nord Kivu, province à elle seule, à environ 1,1 million déplacés dans des sites et camps. Donc sans compter évidemment avec ceux qui sont dans des familles.
Ok, mais quels sont leurs besoins actuellement par rapport aux besoins d'il y a 5 mois et comment vous y faites face?
Bon, en fait, pour l'ensemble du pays, selon les estimations de nos partenaires, donc on est à l'ensemble du pays à environ 2,9 millions. Donc, fondamentalement, le besoin de ces personnes déplacées reste le même, d'une année à une autre. Les déplacés ont besoin de vivre, ils ont besoin de logements, ils ont besoin d'eau, de soins de santé primaires, de vêtements, etc., etc. Mais nous, c'est le vivre qui nous concerne au premier point. Donc, nous attendons de recevoir davantage de moyens pour pouvoir voler au secours de ces millions de déplacés.
Dernière question, quel est le plan d'action, si vous voulez bien, les programmes d'assistance du PAM à ces personnes pour l'an 2014?
Évidemment, donc oui. Le programme pour 2014 reste le même. Nos activités continuent normalement. Il y a des programmes qui continuent à être mis en œuvre, donc à l'exception de ces programmes de distribution générale des vivres qui a été suspendu et qui va reprendre très 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 prochainement. Donc nous continuons normalement avec notre assistance traditionnelle et nous estimons que dans les meilleurs délais, les choses vont pouvoir reprendre normalement. Évidemment, comptant sur nos bailleurs de fonds à qui nous continuons à tendre la main pour qu'ils nous viennent de nous secourir, puis secourir ceux qui sont dans les plus grands besoins dans les camps et essayer de les déplacer.
Claude Kalinga, je vous remercie.
Merci Jean-Pierre.
Nos nouvelles en bref, d'abord dans le volet développement, une trentaine de personnes dont 18 femmes ont été formées par le PNUD à la prise en compte de la dimension genre dans la mise en œuvre et l'exécution des projets. La formation a eu lieu à Kinshasa pendant 2 jours, c'était la semaine dernière. Les bénéficiaires de cette formation étaient des représentants des ministères sectoriels, des membres de composantes du PNUD impliqués dans les financements des projets, des policiers, des délégués des services publics de l'État et des membres des ONG œuvrant dans le secteur de la microfinance. Le Conseil des laïcs chrétiens et islamiques du Congo a poursuivi jeudi dernier au centre interdiocésain de Kinshasa sa campagne de sensibilisation pour une culture de la paix, lancée en avril 2013. Elle est soutenue par la division de l'information publique de la MONUSCO. Il s'est agi en fait d'un atelier organisé à l'intention des journalistes et animateurs d'émissions religieuses. Une cinquantaine de participants y ont pris part et la formation a porté sur le traitement de l'information religieuse dans les médias. Allons dans l'est de la RDC cette fois-ci où 17 Rwandais ont été rapatriés mardi dernier. Une opération réalisée dans le cadre du partenariat HCR, Commission nationale pour les réfugiés. Ces réfugiés rwandais provenaient du territoire de Kalehe au sud Kivu. Enfin, nous terminons cette page par cette triste nouvelle. L'assassinat mercredi dernier d'un staff national de la MONUSCO à Beni, au nord Kivu. Dans un communiqué rendu public le même jour, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, avait condamné fermement ce meurtre. Il a demandé aux autorités d'ouvrir une enquête sans délai et d'appréhender les auteurs de cet acte.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Des réfugiés centrafricains continuent leur déferlement sur le territoire congolais, dans la province de l'Équateur et dans la province orientale. Un des derniers afflux massifs remonte à la semaine dernière avec plus de 500 nouveaux arrivants à Guadolité. Information donnée par Céline Schmitt, l'administratrice principale régionale des relations extérieures au HCR RDC. Céline Schmitt revenait de Zongo où elle a été témoin de l'arrivée continuelle des centrafricains fuyant les exactions dans leur pays. Elle est notre invitée. Elle a répondu aux questions d'Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Céline Smith, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez à Zongo jusqu'à la semaine dernière. Des réfugiés centrafricains continuent toujours à affluer dans ces territoires de la RDC.
Oui, effectivement, les réfugiés centrafricains continuent à arriver en RDC. Ils arrivent à Zongo, c'est-à-dire qu'ils viennent de Bangui, mais ils arrivent également à Libengue, Donc certains fuient Bangui et font toute la route qui est plus de 200 km jusqu'à Libengue, et d'autres aussi arrivent à Badolité. Notamment depuis ce week-end, il y a eu un nouvel afflux de réfugiés au niveau de Badolité et plus de 500 réfugiés sont arrivés au cours des derniers jours depuis ce week-end à Badolité. Le HCR les accueille après que les réfugiés aient traversé la frontière et nous avons commencé leur relocalisation vers le camp de Inke.
À combien estimez-vous le nombre de ces réfugiés centrafricains à ce jour ?
À ce jour, on a plus de 59 000 réfugiés centrafricains qui sont maintenant en RDC. Ils sont arrivés depuis la fin 2012 et il y a eu un nouvel afflux depuis le 5 décembre dernier. Donc depuis le 5 décembre dernier, on estime à plus de 10 000 les réfugiés qui ont traversé. Le nombre continue d'augmenter. C'est par vague, selon les violences qui se passent à Bangui ou dans les provinces de la République centrafricaine.
Oui, il y a combien de sites dans lesquels ils sont logés à ce jour ?
Nous avons 4 camps ou sites de réfugiés, 3 qui sont dans la province de l'Équateur. Il s'agit des camps de Inke, près de Badolité, le camp de réfugiés de Molé qui est près de Zongo, et le camp de réfugiés de Boyabo qui est près de Libengue. Il y a également un camp de réfugiés en province orientale, Mboti, qui est près de Ango.
Et comment vous gérez tous ces réfugiés par rapport à leurs besoins ?
Nous travaillons sur place avec des partenaires. Le premier partenaire est la Commission nationale pour les réfugiés, qui s'occupe de faire un premier enregistrement des réfugiés quand ils arrivent, et qui est notre partenaire gouvernemental. Nous avons également des partenaires que nous appelons des partenaires opérationnels de mise en œuvre, qui s'occupent de la gestion des camps de réfugiés, c'est-à-dire faire en sorte que les réfugiés aient accès à l'éducation, qu'ils aient accès à l'eau, qu'ils aient accès à des soins de santé, qu'ils aient une maison, un petit abri où ils peuvent vivre, qu'ils ont le nécessaire pour pouvoir vivre. Et nous travaillons bien évidemment aussi avec les autres agences des Nations Unies, notamment le PAM qui fait des distributions de vivres.
Est-ce que le HCR n'est pas débordé par cette situation ?
Nous faisons face à de nombreux défis, notamment du fait, oui, des nouvelles vagues et du nombre grandissant de réfugiés qui arrivent, mais également nous avons de nombreux défis logistiques. Les camps sont situés dans le nord de la RDC. L'accès n'est pas toujours facile. Par exemple, si nous avons des convois aériens pour ramener de l'aide à Guémena, ensuite nous devons transporter cette aide par camion jusque dans les camps de réfugiés. Parfois, les camions mettent plus d'une semaine à amener l'aide dans les camps de réfugiés. Un autre moyen de transport est la rivière Oubangui, mais là aussi, de Mbandaka jusqu'à Zongo, par exemple, c'est plusieurs jours, voire parfois plus d'une semaine pour que le bateau puisse arriver. Et un autre défi que nous avons, c'est effectivement une des sources d'approvisionnement était Bangui. Et la fermeture de la frontière a fait que nous avons même des commandes qui sont bloquées à Bangui. Donc par exemple, nous avons une commande de savon qui est bloquée depuis début décembre à Bangui.
Donc il y a des défis, mais le HCR n'est pas très débordé par la situation.
Nous essayons de faire face à la situation au mieux. Mais comme vous le disiez, oui, nous avons des défis pour acheminer l'aide à temps, mais également nous avons des défis parce que beaucoup des réfugiés qui sont arrivés sont des jeunes qui étaient étudiants à l'école secondaire ou dans des instituts techniques ou à l'université. Ils ont dû fuir Bangui, ils ont dû laisser les études, ils ont laissé l'université derrière eux. Ils arrivent dans une zone rurale où ils ont parfois du mal à se retrouver, où il n'y a pas d'université. C'est un défi aussi parce qu'il y a ces jeunes qui ont besoin de continuer leurs études et nous avons déjà fait un appel à nos partenaires aussi pour voir quels sont les systèmes qui peuvent être mis en place. Alors pour l'école secondaire, nous avons vu avec les écoles secondaires
de la place,
les villages avoisinants, la possibilité d'intégrer les réfugiés pour qu'ils puissent continuer à suivre l'école secondaire. La situation est plus difficile pour les réfugiés qui étaient étudiants. Nous sommes en train de construire un cybercafé dans le camp de réfugiés de Molé pour leur permettre d'avoir accès à l'éducation. Mais c'est pas suffisant. D'autres projets sont nécessaires.
L'UNICEF doit être intéressé par rapport à ces besoins-là.
L'UNICEF est effectivement un de nos partenaires. Nous leur avons fait part aussi de ces problèmes-là et nous allons travailler avec eux aussi, bien évidemment.
Céline Smith, comment sont accueillis ces réfugiés centrafricains par la population congolaise ? Est-ce que la cohabitation ne pose pas problème ?
Alors, je vous parlais des réfugiés qui sont dans les camps, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la moitié des réfugiés sont dans des familles d'accueil. Donc la cohabitation avec la population congolaise se passe bien. Certaines personnes qui accueillent des réfugiés centrafricains étaient elles-mêmes réfugiées en Centrafrique lorsqu'elles ont dû fuir des violences en RDC. Donc il y a un échange, il y a une certaine solidarité entre les deux rives de la rivière Oubangui. La cohabitation se passe bien, mais c'est effectivement une chose également sur laquelle nous nous penchons avec nos partenaires, avec la Commission nationale pour les réfugiés, pour assurer qu'il y ait une bonne cohabitation avec la population locale, mais également une bonne cohabitation dans les camps. C'est-à-dire qu'également dans les camps, il n'y ait pas de tensions, que les tensions qui ont lieu à Bangui n'aient pas lieu dans les camps de réfugiés. Et nous avons discuté dernièrement avec les comités de réfugiés sur la nécessité effectivement d'avoir des activités aussi de coexistence pacifique dans le camp.
Céline Smith, quittons le nord-ouest de la RDC pour l'est, cette fois-ci pour parler non pas des réfugiés mais des déplacés internes au nord Kivu notamment. À combien évaluez-vous aujourd'hui leur nombre dans cette province, les déplacés?
Il y a maintenant plus de 1 million de personnes déplacées internes dans la province du nord Kivu, dont quasiment 400 000 vivent dans des sites de réfugiés ou dans des camps de réfugiés.
Alors, quels sont leurs besoins et comment ces besoins sont-ils gérés par l'EACR?
Les personnes qui sont déplacées souvent fuient leur maison sans rien. Fuient des combats, fuient des violences, essaient de prendre juste l'essentiel, mais manquent en fait de ce qu'ils ont besoin pour survivre. Donc, ils ont des besoins en matière de... d'ustensiles de première nécessité, que ce soit pour faire la cuisine, pour dormir, un abri, quelque part, une bâche, des couvertures. Mais également, ils ont des besoins en matière d'éducation. Les enfants ont fui, ne peuvent plus aller à l'école. En matière de santé, accès à des soins de santé, d'accès à l'eau. Donc les acteurs humanitaires travaillent ensemble pour apporter une aide à ces personnes, et notamment une aide d'urgence. Les besoins sont tels et nos moyens sont limités que très souvent nous arrivons à apporter qu'une aide de première urgence, c'est-à-dire vraiment répondre aux besoins essentiels des populations qui fuient. Dans les camps de déplacés qui sont gérés par l'UHCR, ce que nous faisons, c'est que à chaque vague d'arrivée de nouveaux déplacés, nous leur donnons les outils, les instruments qu'ils ont besoin pour leur survie, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des bâches en plastique pour pouvoir construire un abri, des ustensiles de cuisine, nattes, couvertures. Il y a une aide particulière qui est accordée aux personnes vulnérables, celles qui ne peuvent pas en fait se débrouiller toutes seules, c'est-à-dire des personnes malades ou des femmes enceintes, des femmes qui sont seules avec de nombreux enfants ou des personnes âgées, qui reçoivent une aide additionnelle pour pouvoir construire leur abri.
Céline Smith, merci de votre disponibilité.
Notre nouvelle en province, une mission conjointe initiée par l'ONU Habitat a procédé cette semaine à une évaluation de la résolution du conflit foncier entre les Nganzi et les Ngaka dans la province de l'Équateur. Cette évaluation a été sanctionnée par la signature d'un acte d'engagement pour la paix et la mise en place d'un comité de réconciliation des deux communautés. Dominique Wolombi.
La section des affaires civiles de la MONUSCO en partenariat avec l'ONG Search for Common Ground a mis à profit cette mission pour organiser à Yakamba, dans les territoires de Boudjala, un atelier de formation à l'attention des autorités locales et des leaders de deux communautés. C'était sur les techniques de transformation et de résolution des conflits. À l'issue de cet atelier, les communautés Ngbandi de Nzeka et Ngbaka de Bomadea ont accepté de signer l'acte d'engagement pour la paix, acte par lequel elles ont décidé de bannir la violence comme moyen de régler leurs différends. Et ils se sont engagés à privilégier les dialogues et les concertations comme stratégie de résolution de conflits. Le dit acte d'engagement a été signé par les leaders des deux communautés en présence du commissaire des districts du Sud Ubangi et des administrateurs des territoires de Boudjala et de Gemena. Et le comité local de conciliation pour la paix a été mis en place pour faire le suivi de cet acte. Rappelons que les deux communautés se disputent depuis 1964 les limites des terres et des étangs poissonnés. En novembre dernier, leurs accrochages à l'arme blanche avaient fait 23 morts et fait déplacer plus de 25 000 personnes. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
C'est Charlie Kasereka pour la Radio Mutani FM. Aujourd'hui, on sait que les ADEP détiennent les otages qui sont estimés au moins à 500 personnes. La plupart d'entre eux sont des cultivateurs, commerçants et même des prêtres. Les FARDC, en appui avec la MONUSCO, continuent à bombarder leurs différentes positions. Qu'est-ce que la MONUSCO peut nous dire aujourd'hui par rapport à leur sécurité? Est-ce qu'on sait là où ils sont, ces otages? La deuxième question, la MONUSCO détient à ce jour des moyens sophistiqués pour des informations fiables. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire des autorités ou des têtes d'affiche du mouvement rebelle ADF? Qu'est-ce qu'ils sont?
Cette question a été posée mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire. Suivez la réponse du porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Bass.
Les opérations qui ont été lancées par les FRDC, soutenues en cela par la MONUSCO, se passent à deux niveaux. D'abord au nord sur l'axe Erengeti-Kananima et au sud sur l'axe Mbao-Kamango. Nous pouvons vous assurer que ces opérations se déroulent dans des zones non occupées par les populations civiles, premièrement, qui ont toutes fait mouvement vers d'autres localités. Maintenant, concernant les otages, les chiffres sont assez fluctuants. Il y en a qui parlent de 600, il y en a qui parlent d'une centaine, etc. Effectivement, jusqu'à présent, nous n'avons pas une connaissance précise de l'endroit où ces otages ont été détenus. Mais les opérations qui sont en train de progresser de manière très positive sur ces axes-là montrent à souhait deux choses. Un, la détermination aussi bien de la MONUSCO que de FRDC à mettre un terme aux activités de ces groupes armés. Deuxièmement, prouve encore à souhait que l'ADF était fortement implantée dans ces zones entre Nadui, Amissi, Tchoutchoubo, et qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement, avec les FRDC qui sont en train de mener ces opérations, contrôlé la plupart de ces bastions de l'ADF. Maintenant, votre deuxième question. Premièrement, le grand chef de l'ADF qui est Jamil Mukulu, certains le positionnent aussi bien en Tanzanie ou en Angleterre, et nous savons que son chef des opérations, qui est Hud Mutwago, est présentement dans les environs des montagnes du Rwenzori. Le fils de Jamil Mukulu, qui était aussi très actif dans ce mouvement, a été arrêté au Kenya. Des formalités sont en cours pour éventuellement son extradition.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Genigma Samakiluto. Je suis administrateur associé de protection de réintégration du SR ici. Je suis marié, père de deux enfants. Ma formation initiale, je suis juriste avec une spécialité en droit de l'homme et en droit de l'environnement. Je travaille là au SR depuis 6 ans et demi déjà. J'ai commencé comme assistant de protection à mon pays, au Tchad, et j'ai pu avoir l'opportunité de continuer cette activité avec l'OSCR ici dans la République démocratique du Congo. D'abord dans la province du Nord Kivu, territoire de Masisi, dans lequel j'ai passé 2 ans et demi comme administrateur associé de protection. Et j'assumais également l'intérim du chef de bureau pendant cette période-là. En fait, avant d'arriver dans l'agence, j'étais d'abord étudiant parce que l'OSCR, c'est mon premier employeur. Dès que j'ai fini mes études en 2006, j'ai été recruté par l'OSCR 6 mois après. Mais avant ces 6 mois, le travail que j'ai eu, c'était des petits travaux dans la rédaction de rapports périodiques. Hein. Ça, j'ai pu faire ça avec le PNUD. Et puis, ce que je pourrais aussi ajouter avant de commencer avec l'OSCR, c'est un peu la vacation à l'université d'Abéché, où j'ai été chargé de quelques cours de droit à l'université. Comment je gère mon temps libre? Lorsque j'ai en mémoire le fait que je ne sais pas à quelle heure commence la journée, quand finit la journée, c'est difficile de pouvoir expliquer ça. Mais lorsque j'ai l'opportunité, de temps en temps, c'est 1 heure, 2 heures qui me permet d'être libre, j'aime suivre les films pour m'évader un peu. Actuellement, à Bouburu, par exemple, j'ai trouvé un passe-temps favori qui est le jeu d'esclaves. Parce que j'ai trouvé qu'il y a aussi beaucoup de joueurs de Scrabble ici. Et lorsque le temps le permet, avec les collègues, on essaie un peu de s'adonner à ça pour passer un peu de temps. Puis j'aime beaucoup la musique et j'aime danser également. J'aime beaucoup la musique congolaise. Dans les mains, j'aime beaucoup plus les légumes. J'ai appris à manger le pondou ici, les zamaran, les lingaling, tout ça. Donc ça, c'est j'ai apprécié hein, dans la cuisine congolaise. Hein. Projet d'avenir. Je voudrais bien avoir cette opportunité de travailler pour l'OSCR. Non seulement elle m'a donné l'opportunité de me perfectionner dans le travail, non seulement elle m'a aussi donné les possibilités de découvrir du monde, de découvrir les facettes de ce travail, mais j'ai finalement pris du goût dans ce travail.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Deux rendez-vous à noter dans vos carnets. Le festival Amani se tiendra du 14 au 16 février à Goma. Ce festival réunira des artistes de renommée internationale et représentatifs de différentes ethnies de la région des Grands Lacs. Il sera ouvert aux habitants de la région. Et ce faisant, le festival Amani a l'ambition de se présenter comme élément fédérateur de paix et de réconciliation et comme un moyen de rapprochement des peuples. À retenir également pour la semaine qui commence, ce lundi 10 février, c'est le début de l'audience de confirmation des charges de Bosco Taganda à la CPI. C'est la fin de cette édition du magazine des Nations Unies. Mila Kimbouini vous l'a présenté grâce à la dextérité technique d'Héritier Sidiakala. Jean-Pierre et Lali Coco l'a coordonné sous la supervision de Nikon Gaka et Honoré Missenga était au reportage. Si vous avez aimé cette édition ou si vous l'avez prise de court, pas de panique, vous pouvez la retrouver sur notre site internet radiocapi.net. Vous pouvez nous laisser un commentaire, vous pouvez aussi nous écrire pour nous proposer vos questions aux Nations Unies. Sinon, vos remarques, vos suggestions, vos questions, vous pouvez aussi les envoyer au 082 30 76 630. 082 30 76 630. Merci de nous avoir suivis et excellente journée dominicale à tous.